Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Julie Delibran. Elle est couturier et elle est la fondatrice de la marque éponyme Julie Delibran. Bonjour Julie.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, pardon?
Oui, je m'appelle Julie Delibran. Ouais. Et nous sommes à Paris aujourd'hui, ensemble. Donc merci d'être là aujourd'hui.
Et la deuxième question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance? Où est-ce que tu as grandi? Comment tu as commencé ta carrière et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la création de ta marque? Ça va être long.
Et oui, c'est sûr que c'est long. Alors, je suis née en France. Ouais. Je suis française d'origine de la Provence. J'ai grandi donc en Provence et nous sommes après partis aux États-Unis en 80. Mmh. Où j'ai grandi après de 80 à 90, donc quand même des années importantes. Et après, je suis rentrée en Europe.
Et c'était dans quel coin? Aux États-Unis?
En Californie, à San Diego. Donc une vie de plage et de liberté totale au soleil.
Et ces 10 années en Californie, tu penses que ça t'a vraiment formaté, ou est-ce que ça t'a formaté pour la suite des événements? Et comment a été le retour justement des États-Unis quand tu es rentré à Paris? C'était terrible, non? J'imagine que c'était un peu dur.
Bah, dans les deux sens, disons, de la France à la Californie, c'était vraiment un culture shock, comment ouais. on dit, un vrai contraste de vie et de style, d'expression et de liberté aussi. Et aux États-Unis, ce qui est vrai en 10 ans, c'est, moi j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler assez tôt. En fait, les jeunes ont la possibilité de faire des expériences assez tôt, donc on est vite libre et en même temps c'est une opportunité pour grandir et d'avoir la possibilité de faire des expériences et de savoir parler aussi aux gens, de s'ouvrir, de s'exprimer. Donc ça, j'ai eu cette opportunité. Après, oui, le contraste, bien sûr, de la Californie et après rentrer en Europe était aussi un autre culture shock, un autre changement. Bon, je venais de l'Europe et je venais souvent l'été en vacances, donc c'était quand même très familière. Mmh. Mais c'est sûr que... Alors après, moi, je suis partie vivre en Italie, donc ça, d'accord. C'était encore une autre expérience.
Un autre cultural shock.
Oui, mais qui m'a apporté déjà la langue, de pouvoir parler différentes langues et savoir s'adapter au changement était quand même était quelque chose qui m'a énormément aidée dans mon travail, dans ce que je fais aujourd'hui.
Très bien. Passons à ta formation. Alors, quelles études tu as fait? Où est-ce que tu as étudié? Et parle-nous de ton parcours, quoi, chacune des étapes clés de ton parcours.
Alors, mon parcours... Donc, j'ai commencé en arrivant en Italie après mon bac. J'ai fait une école de mode à Milan. Oui. Donc, l'Istituto Marangoni à Milan. Mm. où j'ai fait du design et du patronage. Voilà, j'ai fait un cours de... j'ai fait mes études là-bas et après j'ai commencé, je voulais continuer et mes professeurs à l'époque m'ont conseillé de commencer à travailler et faire d'expérience en fait. Donc j'ai commencé après à travailler directement dans des maisons de mode italiennes.
D'accord.
Et c'est que après où j'ai rejoint la chambre syndicale de la haute couture où j'ai fait après un cours à Paris de toilage et...
De modélisme et de... Ouais, de toilage.
De toilage. Le drapage.
De drapage, ouais. C'était un rêve de gosse, non? Comment t'es tombé dans... Comment t'as choisi cette voie-là? C'était quelque chose... Tu rêvais de faire ça depuis toujours ou ça t'est tombé dessus un peu par hasard? Ou est-ce qu'on t'a mis le pied à l'étrier? Est-ce qu'on t'a poussé à faire ça? C'était un choix d'aller à l'Institut Marangoni?
En fait, je ne savais pas vraiment... Je faisais ça naturellement chez moi, en fait, dans le sens que je travaillais, j'aimais ça, je faisais mes recherches, je cherchais des matières, je dessinais beaucoup, j'assemblais des choses ensemble pour me faire mon propre style, en fait. Donc j'avais déjà cette créativité. Et sûrement avec ce culture shock en Californie, en étant française avec quand même une base française ou une base... même le placard de ma mère était un peu mes racines françaises. Donc j'avais ces références-là. Et je regardais, bien sûr, maman adorait la mode déjà. Donc elle recevait tous les magazines, les Vogue français, les Vogue américains, tous les magazines de mode. Donc déjà, je m'y intéressais beaucoup. Et c'est sûr que je passais beaucoup de temps aussi dans son placard où je regardais toutes les finitions, les proportions, les matières. Je rêvais un petit peu.
De quoi était fait son vestiaire ?
Son vestiaire était très français. Donc, quand on est parti aux États-Unis en 80, c'était vraiment... donc, comme je disais tout à l'heure, et c'est qu'avec le temps que j'ai réalisé que son vestiaire était un peu mon enfance, en fait, et mes racines françaises. Donc, je partais souvent explorer son placard. Je m'enfermais dans ce placard où je rêvais. Et je regardais... parce que, bien sûr, je n'avais pas le droit de porter ses vêtements à cette époque-là, parce que j'étais petite. Mais bon, ça m'inspirait énormément. Et donc, son placard était fait... là, je parle des années début 80, où en partant de France... où maman, dans les années 70, portait beaucoup de vêtements Yves Saint Laurent, de Kenzo de l'époque, du Sonia Riquel, du Céline. Elle avait aussi beaucoup de choses elle adorait les belles matières, elle avait une garde-robe où elle portait... elle portait les choses souvent, elle les reportait. C'était quand même une garde-robe où elle était assez active. Donc, c'était des vêtements ou alors des robes, des robes du soir aussi qui étaient assez merveilleuses, qui me faisaient rêver aussi. Jusqu'à... et puis, même l'armoire de ma grand-mère, c'était un peu une tradition dans la famille d'avoir des choses très françaises, très... De belle qualité. La qualité était toujours importante.
Tes expériences dans des maisons italiennes, c'était quoi ? T'étais déjà designer, styliste, créatrice ?
Oui, absolument. Mon premier travail dans une maison italienne, c'était avec Jean-Franco Ferré.
Oui.
Donc à l'époque où il travaillait aussi chez Christian Dior. Et j'ai commencé comme designer, donc sur sa ligne au début, mais ça a duré même 6 mois peut-être, où j'étais designer pour Oaks by Ferré et Jeans Hommes et Femmes Ferré. Et puis tout de suite, ils m'ont demandé, en fait, il y avait une place qui s'était libérée sur la première ligne de Gianfranco Ferré. Et tout de suite, ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Bon, j'avais 20 ans, j'étais encore jeune. Et j'ai commencé tout de suite donc à ses côtés de Gianfranco Ferré. Et il dessinait devant moi. Et moi, je courais à droite et à gauche dans nos placards, parce qu'on avait des placards assez extraordinaires avec des formes de toiles ou des formes de vêtements que je drapais sur la mannequin et qu'après, il dessinait les silhouettes.
D'accord, il travaillait comme ça à l'époque.
Oui.
Directement sur un mannequin vivant.
Un mannequin vivant, oui.
Ouais, une femme.
Oui.
Et donc ça... Est-ce que tu peux dire quand même qui c'est Gianfranco Ferré? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce monsieur. C'est quand même un grand monsieur de la mode, quoi. Tu as eu la chance de travailler avec, très rapidement, très tôt, avec des gens hyper talentueux, quoi. Enfin, lui, en tout cas.
Oui, oui, Gianfranco Ferré avait une formation d'architecte à la Domus de Milan. Et d'ailleurs, son travail était souvent dans la structuration, la trois dimensions, la sculpture d'un vêtement, la construction. Il travaillait aussi comme un architecte dans la mode. Donc, bien sûr... dans un patronage, il y a une structure, il y a des piliers, il y a des choses qu'on a besoin pour que ça tienne.
Ouais.
Et donc, on passait des heures à faire des essayages sur des toiles avec lui. Il coupait les toiles, il les reconstruisait. C'était vraiment très, très intéressant. Et c'était vraiment une bonne base d'apprentissage de construction d'un vêtement.
Et c'est marrant parce que c'est quand même encore une époque où on dessinait tout à la main, on sculptait le vêtement sur un mannequin vivant, on parlait pas encore de... Enfin, on travaillait pas forcément avec du vintage. On travaillait avec du vintage ou pas du tout? C'était...
Très peu.
J'ai l'impression que c'était de la création pure, quoi.
Ouais, complètement de la création pure, et c'était tout à la main, oui, c'était dessiné à la main, bien sûr, drapé à la main, et il y avait... On n'utilisait pas de Photoshop ou d'ordinateur ou tout ça. C'était vraiment beaucoup de manuels, et c'est ce que j'ai appris, moi, d'ailleurs.
Et tu continues à travailler comme ça, alors.
Je continue à travailler comme ça. Moi, je ne peux pas faire autrement.
Trop bien. Et d'après toi, pourquoi il t'a choisi, toi, à l'époque? Alors, j'imagine qu'il n'y avait pas que toi, il y avait plein de gens. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti en toi? Pourquoi on fait confiance à une si jeune fille, si jeune femme?
Alors, je pense que ce qui l'intriguait, c'était que j'étais française. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français à Milan, en 90, 91, 92. Il n'y avait pas énormément de Français. En fait, j'en connaissais pas, moi, de Français. Mon parcours, sûrement aussi, entre la France et les États-Unis, et d'apporter quelque chose de différent à son équipe.
Culture,
Oui. Créatif, et bien sûr de parler de différentes langues et d'avoir ça m'ouvrait déjà des portes, et c'était quand même Milan à cette époque-là était quand même très très milanais, assez culturel et classique et fermé, et c'était je pense que c'est quelque chose qui et peut-être ce lien avec Paris, vu qu'il travaillait aussi chez Christian Dior à Paris. Ça apportait une petite antenne française dans son studio de Milan.
Très bien. Donc là, tu restes combien de temps chez Ferré?
Gianfranco Ferré, plus de 2 ans.
Ouais.
Et après, j'ai voulu rentrer à Paris. Donc, je suis venue à une période où... c'était une période, donc ça devait être 94... c'est ça, oui, 94. Et j'ai donc fait la chambre syndicale de la haute couture, où j'ai fait ce cours de drapage et de haute couture. Et j'ai commencé à travailler. Jean-Charles de Castelbajac m'a demandé de rejoindre son studio pour dessiner sa première collection de la femme. Et donc ça a été assez intéressant, un vrai contraste avec Gianfranco Ferré.
En quoi c'était contrasté?
C'est déjà personnellement, le travail de Jean-Charles de Castelbajac était plus sur son expérience à lui, son enfance, sa créativité, son dessin, ses couleurs, son histoire de ses couleurs primaires, son lien avec ses études en fait en pension. Je crois qu'il travaillait beaucoup avec les couvertures de la pension, des choses vraiment liées à sa vie. Donc c'était une vie très différente, très personnelle et très, très différente que ce que j'avais eu comme expérience avant, mais en même temps intéressante. Et donc j'y suis restée un an, où je dessinais donc sa collection, ses bijoux, une partie différente des collections, ses maillots de bain. Et après, j'étais rappelée en Italie, en fait, à l'époque de Gianni Versace, chez Versace avec Gianni. Et j'ai pas pu dire non, même si je voulais rester à Paris, mais cette opportunité m'a vraiment intéressée. En plus, c'était pour travailler avec lui sur sa collection de prêt-à-porter et aussi de atelier, sa couture qui défilait à Paris au Ritz avec ses ateliers. Et donc, j'ai tout de suite décidé de prendre cette opportunité pour travailler avec Gianni et ses ateliers aussi, parce que j'étais intéressée des constructions de ces robes que je trouvais quand même assez extraordinaires.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu... Je sais pas, ça paraît complètement dingue, non, de bosser avec lui en direct chez lui, dans ses ateliers. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Combien de temps ça a duré? Peut-être qu'il y a une question que je t'ai pas posée, c'est qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que t'as retenu de l'expérience Gianfranco Ferré, de l'expérience avec de Castelbajac? Et après, tu me diras ce que tu as retenu de Versace.
Qu'est-ce que j'ai retenu de chez Gianfranco Ferré? Je pense de couper les toiles, en fait, de couper les patronages et de les monter en trois dimensions, en fait, de travailler sur les toiles, sur un mannequin vivant, et de construire des formes en trois dimensions. Même si j'avais travailler sur des patronages, mais de travailler à ses côtés sur les constructions de volume sur des toiles, j'ai beaucoup appris. Après, sur le travail de chez Jean-Charles de Castelbajac, je pense que comme c'était une plus petite maison et à un moment où il me donnait beaucoup de liberté, Et c'était presque une mode contemporaine pour moi. C'était lié à l'art parce qu'il était très influencé par ses amis artistes, même lui, assez artiste. C'était même une autre façon de voir la mode avec un côté plus contemporain. Et j'ai trouvé ça assez un décalage, mais en même temps assez intéressant. L'art sur le vêtement aussi. Avec Gianni Versace, qu'est-ce que je retiens de chez Gianni Versace? Je pense que chaque fois on retient tellement de choses aussi. C'est un milieu, c'est un travail qui est tellement, il y a une discipline, il y a un travail qui est tellement fort et important et tellement d'heures de travail qu'on garde beaucoup beaucoup de choses, donc c'est assez merveilleux. Mais chez Gianni Versace, si je dois penser à une chose, je pense aussi les constructions des robes, ces robes au biais, sur des bustiers invisibles, sur des un côté aussi extrêmement féminin, mais un côté féminin tellement poussé, sexy en fait, même de temps en temps, à son extrême. Et c'est là où j'ai commencé aussi à travailler beaucoup sur des événements, à dessiner pour et faire des essayages avec pour des événements de cinéma, donc pour les
Oscars, le Festival de Cannes.
Voilà, exactement. Donc c'était aussi intéressant parce que c'était ce début-là où j'ai commencé à être dans la partie création, mais aussi voir les robes sur une femme finale, en fait. Quelqu'un qui essayait vraiment la robe, qui allait après la porter dans un événement public. Donc cette relation aussi avec de toutes les étapes, de la création jusqu'à que la robe soit portée et photographiée et mise
par la star,
exactement.
Et donc là, ça dure combien de temps chez Gianni Versace,
2 ans.
Toujours 2 ans, t'es abonné aux 2 ans, toi, j'ai l'impression.
Oui, presque 2 ans, oui, parce que je suis restée après, donc j'étais là quand il a disparu.
Ah bon, d'accord.
Oui, j'étais là. Et je suis restée après avec Donatella pendant 6 mois.
Ah, c'était être d'une violence terrible ces années-là.
Oui, c'était une violence terrible, ouais, c'était très très difficile. Et donc Prada m'avait proposé de les rejoindre, mais à la fin je suis restée chez Versace 6 mois de plus, et après j'ai rejoint Prada donc en 98.
Mais tu as bossé qu'avec des monuments, quoi, c'est complètement fou.
Les années passent et c'est des monuments, bien sûr.
C'est devenu des monuments, mais à l'époque c'était quand même des... Enfin, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'à l'époque c'était
en 98,
des...
Prada.
Ouais.
Les années 90 de Prada étaient importantes parce que c'était le nylon, le noir, le marché américain. Il y avait un succès dans le marché américain très important. C'était pas encore très développé en France. Bon, il y avait des magasins, bien sûr, mais ils ouvraient encore des magasins. Alors moi, j'étais bien basée à Milan. J'étais... mais oui, c'était aussi lié à la passion de l'art de Miuccia Prada.
Tu bossais directement avec Miuccia Prada.
Oui, bien sûr. Je dessinais les collections avec elle.
D'accord.
Et avec son mari qui s'occupe aussi, bien sûr, de la maison. Donc, je travaille beaucoup aussi avec elle et avec son mari, les deux. Et donc, ça a duré 10 ans et demi, de 2008 à 2018.
D'accord. Donc là, c'est du sérieux, quoi. 10 ans... C'est une vie, quoi. C'est énorme.
Oui.
Et qu'est-ce que tu retiens alors de ces années-là ? Et explique-nous comment Miuccia travaille et son mari. Est-ce qu'il travaille vraiment main dans la main, ou j'ai l'impression que son mari développe plutôt le business et Miuccia est plutôt sur la partie collection, direction
créative.
Artistique, créative, ouais.
Oui et non. En fait, ils font les deux.
D'accord.
Les deux font les deux parce que elle est autant intéressée aussi au business que lui à la création et
vice versa.
Oui, donc ils travaillent, ils sont très très forts ensemble.
D'accord.
Et même séparément, ils sont très forts aussi. Mais voilà, c'est une très belle maison, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là, toi ?
Qu'est-ce que je retiens de 10 ans et demi chez Prada ? Je retiens beaucoup de travail, beaucoup de discipline sur construire, comment construire une collection. Comment construire une collection de A à Z avec la partie équilibrée d'une collection, en fait, entre les choix des matières, jusqu'à définir une stratégie aussi à comment équilibrer les choix de cette collection entre les choix des accessoires, avoir une discipline, faire un concept aussi d'une collection, que ça soit bien équilibré, qu'il y a une offre pour les différents marchés, jusqu'à voir les prix, jusqu'à voir les ventes, jusqu'à expliquer les inspirations, jusqu'à les présenter. Et voilà, vraiment toutes les étapes d'une maison de mode. Voilà, c'est une très bonne école.
Et donc après, on continue de façon... on avance dans le temps. Qu'est-ce qui se passe après Prada ? Après 10 ans et demi de Prada, pourquoi tu pars et vers quoi tu pars ?
Alors en 2003, Prada m'a donné l'opportunité d'ouvrir un studio à Paris. Ouais. Donc j'ai ouvert la partie studio création à Paris, où je continuais à faire des allers-retours avec Milan pour dessiner les défilés avec Miuccia Prada, où j'y restais après plus de temps. Mais sinon, je continue à faire des allers-retours entre les deux. Mmh. Et à Paris, j'ai développé toute la partie sur mesure ou le côté événementiel. Donc aussi toutes les le VIP, celebrity dressing, et aussi du sur mesure pour des clientes, du VIC, VIP. Et ça, ça a été assez intéressant. Et aussi d'avoir la possibilité, disons, le meilleur de l'Italie, le meilleur de la France, de pouvoir être entre les deux, mmh. était assez merveilleux pour moi. Et c'est que en 2008 que... Non, c'est ça ? Oui, 98, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi.
98-2003, ouverture de Prada
à Paris. Voilà, 98-2003, l'ouverture ouais. de Prada à Paris. Et 2008, j'ai une opportunité de rester à Paris pour rejoindre Louis Vuitton avec Marc Jacobs. D'accord. Et ça a été donc pour moi très très difficile de quitter la maison Prada parce que je suis encore très attachée. Mais pour moi d'être à Paris, d'être à Paris tout le temps, ou plus à Paris, et de pouvoir créer, faire mon métier et ma famille qui était à Paris à ce moment-là, ça avait quand même plus de sens. Et Paris est quand même la capitale de la mode.
Oui, il paraît, ouais. Enfin, je crois. Ouais.
Oui, toujours.
toujours.
Donc, j'ai voulu prendre cette opportunité et essayer et rentrer dans cette maison Louis Vuitton, qui était aussi une très belle opportunité.
Mythique, ouais. Et puis pas avec n'importe qui, quand même. Marc Jacob, c'était à l'époque... Enfin, où Marc Jacob, l'époque Marc Jacob Louis Vuitton, c'était over the top, quoi. C'était les plus belles années de Marc Jacob.
Oui, oh oui, c'était des très belles années où on a fait des défilés assez extraordinaires, ouais. qui sont faits une fois, je pense, qui resteront dans l'histoire.
Ouais, dans l'histoire de la mode, ouais.
Complètement.
Et Comment on se construit sa propre personnalité quand on est à côté de monstres sacrés comme ça, quoi, comme Miuccia Prada, comme Marc Jacob, etc. Parce que j'ai l'impression que quand on travaille avec des gens aussi importants, enfin avec des visions surtout aussi importantes et des personnalités aussi, je dis toujours importantes, mais voilà, ils prennent de la place, j'ai l'impression, ces gens, en tout cas, bosser à leur côté. C'est quand même difficile de construire sa propre personnalité aux côtés de ces gens-là, non ? Créative, hein ?
Oui, c'est sûr. Après, moi, j'ai toujours eu un énorme respect dans chaque maison où j'ai été, à côté de ces grands créateurs, où d'un côté, c'était un apprentissage extraordinaire, donc j'étais tellement heureuse de pouvoir y participer. Et en même temps... j'étais là aussi pour apporter mes idées et faire une différence. Donc, c'était toujours... de toute façon, la mode, c'est un travail d'équipe. On apporte... on ne travaille jamais seul. C'est un travail... vraiment, c'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs. Parce qu'ensemble, on crée de plus en plus d'idées qui sont de plus en plus, plus fortes. Donc, pour créer ça... Garder son caractère, sa personnalité, c'est juste qu'il faut savoir s'imposer, savoir travailler dur et montrer, faire son chemin. Alors moi, à ma manière, j'ai fait mon chemin où je trouvais des solutions, je travaillais dur pour arriver au résultat qu'ils voulaient et c'était leur collection. Donc c'était... Et puis même d'anticiper leur... ce qu'ils voulaient faire ou d'anticiper les solutions aux problèmes, parce qu'on a toujours des solutions à trouver à tous les instants des constructions, des collections dans ce métier. Donc ça fait, voilà, c'était... Et puis aussi, voilà, apporter un petit peu de son style dans chaque collection. De toute façon, il y en a toujours, on apporte toujours une partie de son style. Et moi, je suis sûre d'avoir apporté quelque chose chaque fois dans toutes ces expériences, dans ces maisons. On m'a donné beaucoup et moi, j'ai aussi donné beaucoup.
Ouais. Et comment tu te définirais alors ton style ?
Alors, comment je définirais mon style aujourd'hui ? Alors, mon style, pour moi, est... alors, une chose qu'on m'a souvent dit que j'apportais dans les maisons, c'était un côté féminin. Donc, c'est vrai que... voilà, assez peut-être attentif aux finitions, assez... Mais c'est vrai que j'aime que la femme soit femme, en fait. Même si elle porte une veste d'homme, il y a quelque chose qui fait quand même... Il y a un côté désirable, féminin, c'est quand même une femme. Et je trouve ça toujours très beau. On a beaucoup de chance en étant femme, donc j'aime bien voilà, montrer nos forces.
Nos atouts.
Et nos forces. Et... mon style aujourd'hui, c'est quand même de... J'aime bien des bases classiques, disons, mais après avec des surprises ou des choses, oui, inattendues, des choses créatives ou des choses qui créent du caractère, qui surprend, qui... un haut, un bas, dans le sens high and low, pardon, en français, c'est difficile, on dit pas trop haut. Qu'il y a des contrastes pour que ça crée un intérêt, une personnalité, que ça soit personnel en fait, un style personnel. Donc voilà, je pense avoir mon style, il est très personnel, si ça répond à la question.
Mais c'est bien, ouais, si, c'est très bien. Donc tu restes combien de temps chez Louis Vuitton et qu'est-ce qui se passe après Louis Vuitton ?
Donc chez Louis Vuitton, je reste 6 ans. Qu'est-ce qui se passe chez Louis Vuitton? Donc j'y reste de 2008 à 2014.
C'est ça, ouais.
Voilà.
2008-2014. Ouais.
Exactement. Et Marc Jacobs décide de quitter la maison. Et donc en octobre, après on fait un défilé ensemble. Et donc moi je reste jusqu'à janvier.
Toi, ce qu'il faut dire, c'est que tu étais quand même en charge du prêt-à-porter féminin, c'est ça?
Oui, du studio et de directeur créatif de la mode féminine.
De la mode féminine.
Et du directrice du studio. Donc, d'accord. Je dirigeais toute l'équipe, même sur les accessoires, bijoux, sacs, chaussures. Voilà, je donnais la direction créative des collections de la femme aux côtés de Marc Jacobs. Et donc, voilà, et avec son désir de rentrer et s'occuper que de sa marque à New York, et avec un nouveau directeur artistique qui rentrait dans la maison, et ça n'avait plus trop de sens pour moi de rester. Et puis même, il n'y avait pas de place avec une nouvelle équipe qui arrivait. Donc voilà, donc j'ai eu une opportunité de reprendre la maison Sonia Riquel. Je dois dire que j'ai eu une petite période entre où j'ai rencontré beaucoup de personnes très très intéressantes. Ça a été une période assez enrichissante. Et c'est quand la maison Sonia Riquel m'a contactée que... Après avoir été dans des grandes maisons, je trouvais qu'il y avait un charme dans cette maison Riquel qui me ramenait à mon enfance, comme le placard de ma mère dont je vous parlais au début, de mon enfance française en fait, ce côté très iconique français, des garde-robes, une femme pour une femme qui crée pour les femmes, d'une garde-robe où on peut... Porter un vêtement du matin au soir et on est habillé, on est dans un certain confort et on a une allure et on a des choses à dire. Et je trouvais que cette maison, moi, m'avait marquée dans mon enfance par ma mère et était une maison par sa créatrice, Sonia Riquel, extrêmement iconique, parisienne. Et la taille de la maison aussi, en étant une maison de famille un peu plus petite, me rassurait de reprendre une maison comme directeur artistique. Voilà, une maison qui était dessinée par une femme et qui était une maison de famille. Et qui me... Donc j'ai fait le choix, c'était un choix vraiment qui venait du cœur, de rejoindre cette maison et de dessiner l'histoire et la création pendant 5 ans. Jusqu'à 2018, où voilà, on s'est séparés avec la maison. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire des choses assez merveilleuses dans cette maison, où j'ai fait un défilé en ouvrant une nouvelle rue, l'allée Sonia Riquel. Oui. J'ai eu l'opportunité de célébrer les ateliers de Riquel en faisant un défilé haute couture, en célébrant les ateliers où j'ai voulu appeler cette collection l'atelier Riquel, pour montrer le savoir-faire qu'il y a dans cette maison, qui est quand même extraordinaire. Voilà, après, avec la disparition de Sonia Riquel, j'ai eu l'opportunité de faire un défilé assez magique, qui restait quand même assez festif, parce que c'est ce qu'elle aurait aimé, et puis travailler avec ses archives. Et ça a été, voilà, pour moi, cinq années
riches
quand même. Et je me suis sentie, voilà, une femme qui dessinait pour les femmes, et juste dans une maison de femmes, en fait, qui était un moment important dans notre culture aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, ça m'a... Cette opportunité aussi m'a préparée à faire ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. C'est en 2019. Non, c'est ça, oui, j'ai quitté en 2019. Excusez-moi, les dates.
Vous avez quitté en 2018 et vous avez quitté en 2018.
Enfin, non, en mars 2019.
Mars 2019, pardon.
Oui, mars 2019. Moi aussi, je...
je suis perdu dans les dates. Mais je vous fais confiance, c'est votre histoire. Et en mars 2019, vous quittez Sonia Riquel.
Oui, c'est ma dernière collection, c'est mars 2019.
Et là, vous vous relancez rapidement.
Je relance ma propre marque.
Ouais.
Et je présente mon premier défilé en juillet 2019.
4 mois après, quoi.
Oui.
C'est fou, non? Vous aviez besoin de relancer tout de suite derrière?
Bah, c'est mon métier.
Ouais, vous pouvez.
C'est la mode.
Ne pas faire de collection,
c'est le moment.
Ouais, c'est pas possible. Ouais.
C'est difficile. Et puis quand on est créatif, on a ce désir de créer, on a ce désir de faire. C'est un laboratoire, en fait, créatif. On a besoin
De vous exprimer.
De s'exprimer. J'avais besoin de continuer à m'exprimer. Et j'adore mon métier. Je suis vraiment très passionnée. Et je ne pouvais pas voir ça autrement.
Juste, on revient un tout petit peu en arrière. Quand tu as décidé, j'arrive pas à te tutoyer. Quand tu as décidé de prendre une direction artistique, c'était la première fois que tu prenais une direction artistique. Tu te sentais prête? C'était nécessaire d'avoir... pratiquement 20 ans d'expérience avant de prendre une direction artistique?
Non, c'était pas forcément nécessaire, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes plus jeunes que moi qui l'ont fait très très vite, ouais. Beaucoup plus tôt que moi. D'ailleurs, ça a été souvent des questions qu'on me posait, en disant mais pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt? Et en fait, c'était un choix personnel, où j'ai eu ces opportunités de travailler avec des belles maisons, où j'avais la possibilité de travailler avec leurs ateliers, avec leur matière, et j'ai voulu passer par cet apprentissage et faire cette expérience avant de le faire seul. Parce que j'ai eu des opportunités avant, mais c'était pas le moment. Et je dois dire que c'est Marc Jacobs chez Louis Vuitton qui m'a quand même donné beaucoup, beaucoup de place. Même Prada aussi, en ouvrant l'atelier de Paris. Mais aussi avec Louis Vuitton, je faisais toutes les collections, toutes les pré-collections, les croisières, les pre-fall, où je présentais aux États-Unis, à la presse, en direct, et je faisais des présentations importantes, des mini-défilés. Et ça, Marc Jacobs a toujours été extrêmement généreux avec moi de me donner cette place-là, où j'ai eu aussi à ces moments-là l'expérience et l'opportunité de rencontrer la presse, leur expliquer les collections, les inspirations. Et c'était déjà un apprentissage à ce que j'ai pu faire après seul comme directeur artistique. Donc je sentais que j'avais déjà préparé le travail.
Et switcher, enfin passer de DA à entrepreneur, finalement, ça s'est fait naturellement, sans complications particulières, non ? C'est vraiment, parce que c'est deux métiers, enfin c'est pas deux métiers différents, mais on se rajoute quand même des soucis en plus, quoi. Non ?
C'est sûr, oui. En même temps, moi j'ai vu que le côté positif. Du côté de dire, voilà, de faire à ma façon, de faire la création, mais aussi de montrer quand je veux montrer mes collections, de produire en petites séries limitées. Toutes mes pièces sont numérotées. Donc, j'ai pas de grosses productions, j'ai pas de stock. Je travaille beaucoup avec des archives de matières où je redonne une deuxième vie. Donc, tout est des séries limitées. D'accord. Où je fais faire à la commande aussi. Ma couture est faite à la commande. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de... Et je trouvais ça très juste. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a trop de gaspillage et trop de déchets. On est dans un milieu de la mode où il y a une énorme créativité, mais on est obligé de revoir les choses, on est obligé de revoir comment on produit, où on produit, et suivre le produit de plus proche, parce que c'est très très important, plus que jamais. Donc c'est... voilà, c'est ça qui m'a fait donner l'envie et la force de le faire seul, même si c'est encore un début, on est encore au début, mais voilà.
Mais c'est quand même quelque chose que tu avais mûri pendant de longs mois, de longues années. C'était une envie qui était en toi depuis longtemps ?
Oui, depuis toujours. C'est quand même quelque chose, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de me pousser plusieurs fois à le faire toute seule. J'ai même un père qui m'a, lui, souvent poussé. C'est lui qui m'a poussé à partir dans une école de mode en Italie quand j'avais 18 ans. C'est lui qui me poussait depuis mes 18-20 ans à faire mon propre... Il est très entrepreneur, donc il me poussait toujours à faire mes propres choix, mes propres collections. Et c'est moi plutôt qui préférais avoir cet apprentissage à travers différentes maisons. Donc j'ai eu souvent des messages comme ça en me disant il faut le faire seul, il faut pousser, il faut essayer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était... dans ma tête, derrière dans ma tête, mais que voilà, comme j'avais vraiment besoin de faire le travail avant et d'apprendre par les meilleurs et après pouvoir le faire seul. Donc c'est ça vraiment ce qui s'est passé.
Et question assez naïve, mais on commence par quoi quand on lance une marque et qu'on s'appelle Julie Delibran?
Alors moi j'ai voulu commencer par déjà la création, donc
forcément, ouais.
J'ai commencé par un choix de matière, donc j'ai fait faire des tissus couture dans des ateliers qui travaillent que avec des choses assez extraordinaires, donc juste la quantité pour faire une robe. Et après, j'ai eu la chance de trouver, comme je suis dans le milieu depuis très longtemps, des archives de tissus qui étaient gaspillés, disons, qui étaient extrêmement inspirants. Donc, j'ai récupéré ces matières pour après créer des robes. Et j'ai décidé, pour ma propre collection, de vraiment commencer avec des robes et de me focaliser sur une catégorie parce que c'était ce qui était plus sincère à ma créativité depuis le début. D'ailleurs, j'ai commencé à dessiner une robe quand j'avais 14 ans. C'était ma première création que j'ai dessiné, fait fabriquer et porté. Et donc, l'idée de faire des robes m'a toujours... extrêmement plu dans chaque maison où j'ai été et j'ai toujours trouvé qu'une robe c'était une solution à beaucoup de choses pour une femme parce que c'est une tunique, ça peut être porté avec un pantalon, c'est une robe dépendant du volume, de la matière, c'est ouvert à une créativité très ample. Mmh. On ne s'ennuie jamais avec une robe. On peut la porter ceinturée, on peut la porter de manière tellement différente et je trouve que ça nous habille. Mmh. Et donc, une robe était la façon qui exprimait vraiment mon style et ma marque.
Qu'est-ce qui fait une bonne robe ?
Alors, il y a plusieurs bonnes robes, mais si une bonne robe, c'est... C'est la matière est importante parce que la qualité de la matière, ça dit tout. Ça dit comment ça va tomber, ça dit comment ça va durer dans le temps. Une robe doit être intemporelle pour moi. Et donc, qui dit une bonne robe, c'est un volume qui peut être porté différemment. Je trouve que moi, j'adore créer des pièces qui ont différentes utilités. J'adore, c'est peut-être mon côté américain, où une chose peut avoir différentes options. J'adore quand...
Ça peut être ceinturé, porté à l'envers, à l'endroit. Ce genre de choses.
Voilà, en enlevant les manches, en faisant une partie qui peut s'enlever pour que ça soit plus court, ou voilà, que ça crée différentes longueurs, différentes portées, en fait. Je trouve ça toujours... ça crée beaucoup de caractère à une silhouette, à une forme. J'adore pouvoir jouer avec une pièce et la porter différemment. Je trouve que c'est ça qui la rend intemporelle.
Et c'est quoi la matière d'une bonne robe ? C'est quand, enfin, toi tu fais des choses qui sont plutôt fluides ou plutôt très tenues. Et c'est quoi ta matière de prédilection ?
Alors, j'ai différentes choses parce qu'en fait j'aime des choses structurées. Si les matières sont travaillées, importantes, brodées, assez spectaculaires par des broderies, par un travail méticuleux ou des matières qui sont assez importantes dans le sens qu'on les voit ou qu'il y a une brillance ou que c'est une trois dimensions, une broderie. Je trouve que souvent la matière est tellement importante qu'une forme plus simple... c'est juste trouver l'équilibre entre la matière et la forme qui est importante. Et puis après, j'utilise aussi, comme je disais, dans les matières que j'ai pu retrouver qui étaient assez inspirantes, qui étaient donc des stocks de matières. C'est des matières, j'étais plus à la recherche de matières fluides, mais quand même des belles matières de qualité, donc des soies ou des matières qui sont de qualité, qui vont durer dans le temps
et qui vont être
plutôt naturelles, qui vont être reportées et portées parce que c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui ne perd pas sa lumière ou sa souplesse ou sa qualité en fait. Est-ce que ça répond à la question ?
Ouais, c'est ça. C'est ce que je cherchais à comprendre et à savoir. C'est marrant quand même cette volonté de revenir à quelque chose de beaucoup plus contrôlé et de beaucoup plus... beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus mesuré. Comme si tu avais pendant 20 ans, même plus...
presque 30 ans.
Pendant 30 ans.
Ouais.
fait beaucoup de produits, beaucoup de produits, produits en très grande quantité, en très grande série, renouvelés 4 fois, voire 6 fois par an.
8 fois,
même 8 fois même, ouais. C'est complètement dingue. Et revenir, ouais, comme si c'était une overdose, et de revenir à quelque chose de complètement simple, dans un rythme beaucoup plus naturel finalement.
Bah, il me semble que c'est vraiment l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout va tellement vite, et en fait, ça fait longtemps que je ressens ça, en fait.
Ah ouais,
oui, ça fait très longtemps que je ressens ça. Où on, bon, je suis dans un milieu qui est passionnant, qui est... Mais c'est vrai que ça va tellement vite que souvent on perd la notion de la qualité, de la fabrication des choses, du temps que les choses ont pris pour qu'elles soient créées, qu'elles soient dessinées, qu'elles soient réalisées, qu'elles soient cousues. Ça, chaque vêtement rentre dans la main de tellement de personnes différentes, en fait, avant que ça soit finalisé, entre la création jusqu'à la matière, jusqu'à la partie couture, jusqu'à la broderie. Toutes les étapes sont tellement importantes qu'il y a tellement de passages, et il y a un travail qui est tellement extraordinaire et que je trouve ça dommage qu'on oublie tout ce travail, et qu'on arrive à une mode qui est tellement devenue disposable.
Ouais, bah jeter, prêt à jeter. Ouais.
Que moi, j'ai jamais aimé ça, en fait. Moi, j'ai toujours plutôt aimé la qualité avant tout, et aimé des choses, peut-être, j'ai plutôt attendu avant de trouver quelque chose de belle qualité. Et de savoir que j'allais porter quelque chose de beau, parce que c'était fait d'une certaine manière, que juste acheter, dire je le porte et je le jette demain. J'ai jamais été dans cette mentalité. Donc pour moi c'est juste, et dans le voilà, c'est très très actuel pour moi aujourd'hui de faire ça.
Et tu penses que l'industrie va vers ça? Tu penses qu'il y a une... Parce que toi, c'est un ressenti que tu as depuis longtemps, mais est-ce que tu sens que le marché va vers ça? Moi, le sentiment que j'ai, c'est quand même que avant que les gens prennent conscience, parce que les gens n'ont plus la relation au... Ils n'ont plus la notion des prix. La fast fashion leur a fait perdre la notion du prix. Et faire bien les choses, les faire localement, les faire en prenant le temps, ça coûte cher à fabriquer. Et j'ai le sentiment encore que les gens, ils font leur choix en fonction de leur portefeuille, de leur porte-monnaie. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que la fast fashion a encore de beaux jours devant elle. Non ? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça ?
C'est sûr que ça fait perdre la valeur du travail de ce qu'on fait. Mais je pense qu'avec cette accumulation, on est dans une période tellement... on pollue tellement la planète avec cette mode disposable qu'on jette, qu'on est obligé aujourd'hui comme créateur, et moi je sais, moi personnellement comme créatrice et comme mère et comme personne, je suis consciente que je ne peux pas faire autrement que d'être un peu plus responsable en faisant des nouveaux vêtements. Donc c'est sûr que ça va prendre du temps, parce qu'il y a cette mode parallèle et ces générations, mais je sens déjà que les jeunes générations sont quand même beaucoup plus attentifs à notre planète d'aujourd'hui. Donc ils sont quand même conscients, et de plus en plus conscients de... mais c'est sûr que le prix... C'est sûr que le prix veut dire beaucoup de choses, mais il y a tellement de factors quand même qui aujourd'hui nous fait comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut
y aller.
Il faut revoir les choses et travailler quand même avec des choses qui sont plus timeless, voilà, qui sont plus intemporelles et que... de qualité. Au moins, c'est comme ça que je vois, moi, les choses. C'est sûr que peut-être ça reste encore, encore niche, mais il y a quand même une clientèle et il y a quand même des personnes qui recherchent des choses de qualité. Regardez toutes ces grandes maisons qui, aujourd'hui, ont ce tel succès. Et c'est quand même des maisons qui font des choses de qualité. Mmh. Donc, bien sûr, il y a le fast fashion, mais même le fast fashion est en train de changer pour refaire de la qualité. Même des marques qui font du fast fashion, ils sont en train de revoir leurs matières premières, de réduire leur stock, de ne pas avoir autant de fabrication, de fabriquer que à la demande. Donc, tout le monde est obligé de changer. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, je pense qu'on va dans cette direction.
Ouais. Carrément. Alors, comme on est dans un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode, toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu t'es entouré, c'est qui tes clients, comment tu vas les chercher, sur quel modèle tu es, est-ce que tu es une D2C, direct to consumer ou to customer, ou est-ce que tu vends uniquement sur Internet, est-ce que tu es distribué en magasin, etc. Est-ce qu'on peut parler de tous ces sujets-là?
Oui, bien sûr. Alors, mon premier défilé, ma première collection était en juillet. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec Matches Fashion, qui a acheté ma première collection et qui distribue mes robes. Donc, et c'est sûr d'avoir un partenaire comme Matches sur une première collection, c'est assez extraordinaire parce que c'est une plateforme qui vous met tout de suite dans le monde entier.
Sous les projecteurs, direct.
Oui, donc ça a été assez extraordinaire. En même temps, moi, ce que je voulais faire, comme je disais aussi, comme j'ai vraiment des séries limitées ou de la couture qui est faite à la demande. Je voulais vraiment, avec ma marque, me rapprocher de ma clientèle. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un défilé très intime, en invitant chez moi, en présentant une vingtaine de robes sur mannequins, avec des filles qui défilaient, chaque fille avec sa robe, donc porter sa robe adaptée pour elle. Et voilà, l'idée de cette marque, c'est d'être proche de la cliente, rencontrer la cliente. Alors, j'ai la chance aussi qu'en étant dans ce milieu depuis longtemps, j'ai des clientes ou des femmes ou des amies qui me suivent depuis mes différentes maisons et qui viennent me voir et qui sont contentes de retrouver mes créations aujourd'hui. Ou alors, j'ai des gens qui m'ont suivie et qui aujourd'hui me recontacte et que je ne connais pas, et qui vient voir ma nouvelle collection et vient l'essayer et découvre une nouvelle partie de ma création, qui se reconnaît, je pense aussi. J'ai des femmes qui me disent « Oh, mais j'ai encore ces robes de Prada que je porte tellement, que je reporte, et je ressens qu'il y a... » c'est un exemple, hein, que voilà, je sens qu'il y a dans ces robes aussi voilà, des robes portables qu'on peut porter en différentes occasions et qu'on va porter pendant longtemps. Donc ça fait plaisir. Et l'idée aussi, c'est de voyager avec mes collections et de faire donc des trunk shows pour continuer cette proximité avec ces femmes.
C'est quoi les trunk shows?
Les trunk shows, c'est de pouvoir présenter une collection avec une petite communauté qu'on invite des femmes ou différentes personnes pour voir ces robes ou ces pièces avec une proximité, en fait. C'est un trunk show parce que ça se faisait autrefois, où les gens voyageaient avec leur trunk, avec leur malle, avec leur collection, et on vend sur place.
Trop bien. Et comment tu organises ça?
Eh bien, ça s'organise par mes connaissances, des relations.
Et donc, tu voyages avec ton trunk dans le monde entier.
Oui.
C'est génial.
Oui.
Et tu rencontres toutes tes clientes, alors.
Oui.
Et donc, quand tu as dans ce genre de moment, et même avec toutes tes clientes, tu prends les mesures et tu fais vraiment la robe. Tu proposes un modèle et tu prends les mesures, et donc elles sont faites à leur mesure.
Oui, à leur mesure. Alors, il y a une partie de série limitée qui est en taille, mais je peux bien sûr faire des ajustements sur chaque cliente. Mmh. Et il y a une partie qui est commandée sur mesure, donc fabriquée que à la commande sur mesure, et qui après, où je me déplace après pour un essayage, et je livre après la robe sur leur mesure.
Excellent. Et ça coûte quoi une robe Julie Delibran ?
On a différents prix. On a un prix qui peut commencer à 1200 jusqu'à un prix couture qui peut arriver à plus. Après, si c'est une création du début, ça peut être encore plus. Mais ça peut arriver jusqu'à 25, 30.
Ah oui.
40,
c'est très très jolie robe. Ouais.
C'est des très jolies robes, entièrement travaillées, brodées, avec des matières couture, haute couture et des pièces uniques.
Et alors, comment t'imagines la suite des événements, Julie Delibran ? C'est quoi ta vision ?
Alors, écoutez, aujourd'hui, ils ont annoncé le calendrier de la haute couture de janvier. Donc, on est dans le calendrier de la prochaine semaine de la haute couture à Parisienne. Donc, ça, c'est une très belle nouvelle.
Félicitations, il faut dire ça, hein. Félicitations.
Merci. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est préparer.
Ta vision de la marque dans les quelques prochaines années, ou même à 10 ans. Vers quoi tu veux aller, quoi ?
Alors, aujourd'hui, je veux prendre le temps aussi de faire grandir cette marque petit à petit. Mmh. Parce que, bien sûr, avec cette façon dont je fais de séries limitées, de couture, je veux être proche de ma cliente. Donc, je veux prendre le temps qu'il faut pour que ça grandisse d'une manière naturelle. Mais bien sûr, un jour, j'aimerais pouvoir avoir un lieu, un pas de porte, un lieu où on peut rentrer et pouvoir essayer des robes, ou après me développer, bien sûr, dans d'autres catégories. Là, j'ai des robes, mais moi, j'adore aussi le tailleur, j'adore les accessoires. Alors, mes robes ont des accessoires qui sont des bijoux, qui sont intégrés, qui sont faits de la même manière que les robes, qui sont série limitée aussi, faits avec des archives, beaucoup de pierres. Et aussi, donc, avec ces bijoux qui sont intégrés avec les robes, j'ai ajouté quelques bijoux comme des bracelets, des ceintures, des choses qui accompagnent la robe. Donc j'aimerais bien sûr me développer dans d'autres catégories. J'adore les tailleurs, j'adore le pantalon, j'adore les manteaux, j'adore faire évoluer la marque, bien sûr.
Ouais. Et une question que je t'ai pas posée, c'est que tes clientes, elles attendent combien de temps avant de recevoir leur robe, une fois qu'elles ont commandé ?
Alors, la robe, si elle est en taille avec un tissu limité, c'est 15 jours.
D'accord.
Et une robe sur mesure couture, c'est 6 à 8 semaines.
D'accord.
Avec un essayage compris.
Et les gens attendent patiemment, gentiment. Ils réapprennent la patience.
Oui, mais en fait, s'ils viennent au défilé, ils reçoivent une robe 15 jours plus tard ou 6 semaines à 8 semaines plus tard. Donc, c'est plus vite que le prêt-à-porter ou la couture d'aujourd'hui, en fait. Je fais directement directement avec la cliente. Ouais, donc, c'est comprends. En fait beaucoup plus vite.
Plus rapide que dans le modèle actuel des défilés et des saisons. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite des événements ?
Déjà préparer la collection de janvier. Donc, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter ? Il faut me souhaiter un 2020 merveilleux pour tout le monde. Je pense que Voilà, que je puisse continuer avec ma créativité. Voilà, ça, j'aimerais bien qu'on me le souhaite, que je puisse continuer à être créatif et m'exprimer à travers ma créativité. Ça me ferait plaisir qu'on me le souhaite.
Je te le souhaite, alors.
Merci beaucoup.
Et écoute, moi, je pense qu'on va terminer sur ces mots-là. Je pose toujours une question à la fin de mes interviews, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Qui je souhaiterais entendre d'autre que moi dans ce podcast ? Mais il y a tellement de personnes que j'adorerais entendre dans la mode, bien sûr.
Ouais. Ou dans d'autres secteurs connexes, mais plutôt dans la mode. Ouais.
Dans la mode. Oh là là. J'ai envie de dire Riker Kubo, mais.
Ah ouais, moi aussi. Ouais. Ou son mari.
Mais bon, après, c'est. Oui, une Riker Kubo, une Vivienne Westwood. Ou. J'aimerais bien aussi entendre Miuccia Prada l'expliquer. Elle aussi, à sa façon.
Ah ouais, j'adorerais, moi aussi.
Parce que moi, je la connais bien, mais et je connais son parcours, bien sûr, mais de l'entendre aujourd'hui, sa vision pour... Sinon... un Bernard Arnault et un Pinault aussi, je trouve, sont toujours très intéressants parce qu'ils ont une vision
qui mérite d'être partagée.
Qui mérite d'être partagée.
Et des parcours qui méritent d'être approfondis.
Et... Mais aussi, il y a des maisons dont je respecte énormément qui sont indépendantes.
Ouais, comme qui ?
Que je trouve que ça serait aussi intéressant de les entendre pour comprendre comment ils ont fait et comment ils continuent
à rester indépendants.
Et
à vivre leur indépendance. Tu penses à qui, par exemple ?
J'en pense à plusieurs, mais j'essaye de penser à... Déjà, une maison comme Hermès. Voilà, ça me ferait plaisir d'entendre...
Mais qui chez Hermès, alors ?
Dumas.
Dumas ? Le directeur artistique ?
Oui, Alexis Dumas, les deux cousins, en fait.
Voilà, bah les deux cousins, d'un coup, voilà. je rentreprends dans la mode.
J'aimerais bien les entendre.
Ouais, moi aussi. Et c'était pas vraiment ma dernière question, hein, parce que j'en ai d'autres, finalement, qui me sont venues entre-temps. Est-ce que t'as un moment préféré dans ta carrière ?
En ce moment là.
Ouais. T'as l'impression de
c'est
vivre.
C'est maintenant. Mon moment préféré, je dois dire que c'est le moment.
C'est vrai.
C'est
trop cool de pouvoir dire ça.
Ouais, bah c'est la mode aussi. Je crois que c'est l'actualité qui est important. Ouais. Et puis j'ai beaucoup travaillé pour arriver là, même si j'y suis pas encore à ce que où je voudrais arriver, mais voilà, si je pourrais donner un conseil aux jeunes, c'est qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à quelque chose. Et vraiment, quand je disais, on m'a souvent dit « pourquoi tu n'as pas fait ça avant ?» Moi, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler. C'est pour tous les métiers. Hein. Mais avant de se dire « je suis directeur artistique », je pense qu'il faut quand même un certain apprentissage. Donc, je trouve que c'est important. Après, on est tous créatifs, hein, mais...
Mais je trouve que c'est marrant parce que t'as un côté très... très, très posé et très... Enfin, je sais pas comment dire, mais très, très, très feutré dans le... Ça a l'air d'être simple, ça a l'air d'être très, très facile, mais alors que être designer et avoir fait la carrière que t'as eue, c'est un truc de fou. Enfin, c'est des heures et des heures de travail, c'est des nuits blanches, c'est un travail d'arrache-pied, quoi. Et c'est vrai que quand on t'entend aujourd'hui, quand on t'écoute et quand on te voit, on a l'impression que ça a été fluide et facile, etc. Mais la réalité, elle est pas toute rose.
Non, on est bien d'accord.
Non, mais
voilà, j'essaie j'ai toujours essayé de rester très positif. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a souvent été un plus pour moi, c'est que, et on me l'a souvent dit, que ce soit Mircea Prada ou Marc Jacobs, c'est que je donnais une certaine sérénité au studio et je trouvais toujours des solutions pour que les choses se passent et qu'on arrive au résultat.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est une de mes forces. Quand et donc, quand vous dites, quand tu dis, pardon, que je suis, j'ai l'air sereine et...
Ouais, c'est...
Oui, à l'intérieur, ça...
Ça bouille.
Ça bouille. Mais je pense que c'est un équilibre, en fait. J'ai toujours eu la chance d'avoir une vie aussi assez équilibrée. Et la chance d'être aujourd'hui... voilà, d'avoir d'autres passions aussi sur le côté qui m'ont enrichi.
C'est quoi les autres passions ?
Pour pouvoir faire mon métier à fond et être resté équilibré, voilà.
C'est quoi tes autres passions ?
Alors mes autres passions, mes passions, c'est l'art, c'est le dessin, c'est la photographie, c'est les voyages, c'est la santé, le bien-être.
Ouais, le bien-être. Ouais.
Le bien-être, l'écologie. Je suis très. Je suis végétarienne depuis 90. J'ai grandi avec un. Et puis j'ai grandi tout organique depuis mon enfance, donc voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément aujourd'hui, et je pense que c'est important. Et puis aussi voilà, le sport ou des choses qui, le bien-être disons, qui donne un équilibre qui est vraiment vraiment nécessaire. Voilà, si j'ai pas oublié d'autres choses.
Tu médites, non, peut-être, ou du yoga, des choses comme ça ?
Du yoga.
Beaucoup.
Du yoga. Méditer, j'arrive pas encore. C'est trop.
Ça bout trop à l'intérieur.
Ouais, c'est trop. J'arrive pas encore. Mais ouais. Le yoga, de respirer, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Je fais du yoga depuis très longtemps, mais c'est que récemment que je fais un yoga qui finalement me laisse respirer. Et ça me. Voilà, ça, je le recommande. Aux gens dans ce métier, dans la mode, faites des choses pour respirer, du yoga, parce qu'on ne respire pas. Et, et après, on se rend malade.
Et dernière question, qu'est-ce que tu ferais différemment dans toute ta carrière ?
Qu'est-ce que je ferais différemment ? Eh ben, peut-être... Parfois, je me demande si j'ai peut-être été trop gentille parfois, ou j'aurais dû avancer avant, au lieu de laisser la place, j'aurais dû peut-être, non, je ne sais pas, qu'est-ce que je ferais différemment. Je n'aime pas regretter, donc non, j'aime pas avoir des regrets, donc je... Qu'est-ce que je ferais différemment ? Eh ben, j'aimerais pouvoir dire que cette marque, je l'avais commencée avant. Parce qu'en fait, je vois que c'est ma liberté. J'aurais aimé peut-être avoir pu la faire avant. Voilà, ça c'est sûrement quelque chose qui... Oui.
C'est jamais trop tard, comme on dit. Et ton rôle modèle, c'est qui ? Un rôle modèle, une femme que tu admires vraiment et à qui tu aimerais ressembler.
Une femme, non, à part ma mère, non. Une femme forte. Sinon, oui, j'ai beaucoup de rôles moraux comme femme, mais.
Merci beaucoup Julie, c'était un super moment. À très bientôt et good luck pour ta marque.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.